Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1189 en ce samedi 8 avril, en direct, s'il vous plaît, sur le 666. Sweet Home Chicago, 1189e épisode, avec en première heure Eric Bibb, disque du mois. Vous aurez deux nouveaux extraits de son dernier album Riding. AC/DC, Derek and the Dominos et The Beatles pour parler de status quo, c'est possible, avec Zach Becker dans le 25e numéro de My Rocker's Pile Driver, l'album mythique de 1972, déjà encensé par Jackie Emery il y a 15 jours, est à nouveau sous les feux cette semaine dans l'émission. 50 Years After, cette semaine, avec un autre album de 1973, ô combien mythique également, Houses of the Holy de Led Zeppelin, le groupe des années 70 par excellence. On reviendra en France avec les Toulousains, Bernard Selam and the Boys from the Hood, puis un duo bordelais, oui, composé de Baptiste Castet et de Caligio, Pony Blues, pour un 28 septembre, une dédicace sympathique à un certain Emmanuel M et ses amis. Côté US, ce sera juste la belle Nalani Rotlock qui vous dévoilera un petit peu de son The Rock House Sessions Extended Cut avec sa voix d'or, Nalani Rotlock. Et en deuxième heure, on restera dans le sud-ouest avec Cécile Perfetti, chanteuse, bassiste et percussionniste du duo La Bedoune. Allez, on démarre tout de suite avec Monsieur Eric Bibb, ça s'appelle Hold the Line.
Lately, I've stopped thinking in fighting terms. War is not the way I choose. But the world right now looks like a battleground where every one of us stands to lose. Holding, holding, holding the line. Holding, sometimes holding is all. Plaguing so many souls out there. Far as I can see, the only remedy is a tidal wave of love everywhere. Sometimes holding is all you can do. Thank you.
Eric Bibb, extrait de son dernier album qui s'appelle Riding chez Dixie Frog Records. On va maintenant passer dans la rubrique Frenchie avec tout de suite Bernard Salam, The Boys from the Hood, leur premier et nouvel album, bien sûr, Feeling So Fine, avec le titre album dans lequel on va accueillir à la guitare et au chant, bien sûr, Bernard Salam, puis Eric Church, l'église, à la basse et au chant, Julien Biget à la batterie, et puis ténor et alto sax, c'est pour Franck Motin, bariton et ténor sax pour Manu Lochin, et le bariton saxophone aussi pour David Kérou. Bernard Salam, hein, The Boys from the Hood, Bernard Salam qui était l'invité de Sweet Home Chicago il n'y a pas si longtemps. Vous allez pour cela, pour savoir quels sont les prochains invités, sur la page invité tout simplement de blues.radio666.com.
She's got a deep green eyes, she looks my way, visions like a sunny day. I'm so high, oh, and she's mine, because she's always on my mind. I'm feeling so fine when I'm alone on my own. I wonder why I'm such a lucky guy. I'm so high.
On va rester dans le sud-ouest pendant pratiquement toute cette émission avec, là c'était Bernard Salam, The Boys from the Hood dans Feeling So Fine chez Absilon, et puis une autre nouveauté, mais un truc qui n'est pas sorti sur disque, simplement en vidéo sur le tube, mais j'ai trouvé ça vraiment excellent et digne d'être partagé avec vous. Kadijo donc à l'harmonica et au chant, et Baptiste Casté à la guitare, pour une dédicace au petit Emmanuel M. Ça s'appelle un 28 septembre, écoutez-moi ça.
La table bien garnie et le salon cossu, l'ambiance était feutrée, la vaisselle argentée. Huile plane est un fumée de viande mijotée, ainsi que de complots ourdis à notre insu. Pour voler un peu plus, ceux qui n'ont pas un rond, sans vergogne, il festoie, c'est un dîner de con. La table bien garnie et le salon cossu, l'ambiance était feutrée, la vaisselle argentée. Oui, l'ambiance était feutrée, la vaisselle argentée. D'un vorace appétit, les convives ravis de s'aimer succulents, escroquer nos retraites. Nos pensions dépecées en trois coups de fourchette, salivant du profit d'assujettir nos vies. Pour voler un peu plus, ceux qui n'ont pas un rond, sans vergogne, il festoie, c'est un dîner de con. D'un vorace appétit, les convives ravis de s'aimer succulents, escroquer nos retraites. Oui, oh oh oh, escroquer nos retraites. Oh, ici pas d'assemblée, ni peuple, ni suffrage. Pour les meilleurs morceaux, les riches sont entre eux. Partager le gâteau, ah, ça n'est pas pour les gueux, mais bien pour ceux qui leur suppriment le chômage. Pour voler un peu plus, ceux qui n'ont pas un rond, sans vergogne ils festoient, c'est un dîner de cons. Ici pas d'assemblée, ni peuple, ni suffrage. Pour les meilleurs morceaux, les riches sont entre eux. Oui, pour les meilleurs morceaux, les riches sont entre eux. Ils ont sifflé repu la fin de l'abondance. Ceux qui mangent le plus ne laissent rien aux autres. Si l'on proteste trop, la police est aux ordres. C'est pour nous le pain sec, mais pour eux c'est Byzance. Pour voler un peu plus, ceux qui n'ont pas un rond, sans vergogne ils festoient, c'est un dîner de cons. Ils ont sifflé repu la fin de l'abondance. Ceux qui mangent le plus ne laissent rien aux autres. Oui, ceux qui mangent le plus ne laissent rien aux autres. Oh, la table bien garnie et le salon cossu. Oui, l'ambiance était feutrée, la vaisselle argentée. Oh, oh, dans vos rassas bêtis, escroquez nos retraites. Ah, ceux qui ne mangent plus ne laissent rien aux autres.
Voilà, avec ce rire sardonique et un rien désabusé de monsieur Jean-Pierre Carraro, alias Cadijo, ici pour ce 1-28 septembre. C'est paraît-il comme ça que ça s'est préparé, tout ce qui nous est arrivé depuis le mois de janvier. Je devrais pas rire non plus. Il serait pas un peu de gauche, Jean-Pierre? On continue avec un autre garçon du Sud-Ouest. Un garçon qu'on aime bien, il est du côté de Albi. Je suis pas sûr, j'imite bien son accent. On va s'en rendre compte tout à l'heure. Il s'appelle Xav Baker. Et c'est pour le numéro 25 de My Rockers. Il va nous parler de status quo, mais on attendra des extraits d'autres artistes. Écoutez-moi ça. My Rockers, numéro 25 aujourd'hui, avec un groupe qui s'appelle Status Quo, comme il y a 15 jours avec Jackie Emery, mais cette fois-ci avec un nouvel invité, Xavier Boulanger. Salut Xav, ça va?
Salut Marco, salut, merci de m'accueillir dans ton émission.
Très heureux de t'accueillir dans cette rubrique My Rockers, qui a lieu depuis presque un an maintenant dans Sweet Home Chicago, qui est diffusée sur d'autres antennes également. On en parlera également pour toi, parce que ça c'est ton actualité. Mais d'abord, Xav, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs dans Sweet Home Chicago ce que tu fais là? Dis-moi, d'où viens-tu?
Du Sud-Ouest.
Oui, voilà. Ça s'entend pas du tout.
Ouais, ça s'entend pas du tout. Mon autre surnom, c'est le Gascon, tu vois, donc, mais en un seul mot. Voilà.
Oh. Oui, il vaut mieux préciser, effectivement.
Alors non, qu'est-ce que je fais là? Déjà, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. On a vécu des belles choses en tant qu'animateurs de radio tous les deux et dans les émissions spécialisées sur le blues, le rock, etc.
Exactement.
Voilà. On a créé un joli bébé il y a 20 ans maintenant, je crois, un peu plus peut-être,
ça
qui s'appelait le collectif des radios blues. Donc voilà, bon, tout ça nous a bien rapproché pendant des années. Bon, après, que dire, j'ai animé des émissions de radio sur le rock, le blues pendant des années. Et là, depuis 2-3 ans, j'ai lancé un podcast là, qui s'appelle le Jukebox du Deltaman, où je revisite un peu les artistes qui m'ont touché quand j'ai découvert le blues, quoi. Tous les vieux, là. Alors quand je dis les vieux, ça va de Robert Johnson, Charlie Patton, jusqu'à Muddy Waters, ou le dernier épisode que j'ai fait sur Bonnie Raitt, tu vois. Mais entre-temps, on a fait aussi du AC/DC, du Calvin Russell. Là, tu vois, j'ai un projet de faire Lucinda Williams, parce que c'est une nana que j'aime beaucoup. Voilà, donc je m'amuse avec ce podcast qui peut varier de 20 minutes à 2 heures, suivant tout ce qu'on a à dire sur le personnage.
Quoi. Effectivement, ouais. Xavier, puis en plus, l'avantage pour toi, parce que tu as animé une émission de radio, même plusieurs, pendant de nombreuses années, là, tu n'as plus cette urgence d'être obligé de finir pour le dimanche soir, dire attention, faut que ce soit prêt, faut que j'ai ma...
Merde,
j'ai pas encore reçu tel album, il faut que je remplace par un autre. Le stress.
Ouais, le stress permanent de l'émission hebdomadaire que j'avais, notamment quand j'animais le Baker Street,
oui.
Où effectivement, tous les dimanches soirs, à 20h30 jusqu'à 23h, il fallait meubler quand même 2h30, et que c'était une lourde préparation toute la semaine. Bon, à l'époque, j'avais un peu plus de temps qu'aujourd'hui professionnellement, donc c'était plus facile. Mais c'est vrai que entre les gars qui te disaient, t'écoutais des extraits d'albums, tu disais, ah, putain, mais ça, je vais pouvoir le mettre dimanche dans mon émission, et puis l'album, il arrive jamais, le mec, il t'envoie un MP3 qui est mal encodé, tu vois, enfin, ouais, il y avait vraiment beaucoup de stress là-dessus. Il y avait le fait d'être toujours au courant des concerts qu'il peut y avoir dans un rayon de 150 50 km autour de ton émission de radio, oui. Tu vois. Enfin, c'était vraiment la course à l'info, etc. Et il fallait que tous les dimanches soirs ce soit réglé comme du papier à musique. En plus, c'est dans une radio commerciale, donc il fallait intégrer aussi la place des jingles des publicitaires, etc. Mm-hmm. Enfin, c'était vraiment un énorme boulot de préparation. Là, c'est vrai que ça me demande du travail, parce que c'est vrai que aller chercher, aller fouiller dans la vie pour éviter de réciter du Wikipédia, tu vois, aller fouiller dans les anecdotes, dans les bouquins, dans tout ce qu'on peut trouver, ça demande un peu de boulot, mais l'avantage, bon, c'est que je me dis, bah tiens, l'émission, elle est prête en 15 jours, je la publie, si elle est prête en un mois, bah, je la publie en un mois, voilà, point final. J'ai pas ce stress et cette obligation d'agenda où il faut que dimanche, voilà, tout soit prêt, les séquences, les trucs, les machins. Là, voilà, j'y vais à mon rythme, bon.
Et surtout, tu choisis tes artistes, tu en as cité beaucoup tout à l'heure, et il n'y a plus de plage publicitaire. Alors par contre, tu n'as plus une radio hertzienne, tu travailles avec les plateformes, c'est ça?
Oui, en fait, j'avais monté ce podcast, en fait, grâce à la relation très amicale et très, très lointaine que j'ai également avec des potes qui avaient monté une radio qui s'appelle Blue Swine sur Internet,
et
qui voulaient, et que tu connais bien, puisque qui rediffusaient tes Sweet Home Chicago.
Notamment.
Sauf que là, notamment, parce qu'il y avait d'autres animateurs qui publiaient leur, et j'aimais beaucoup leur slogan qui était rediffuseur d'émotions, quoi, je trouvais ça très bien.
C'est vrai.
Et effectivement, ils m'avaient demandé une émission un peu exclusive qui ne passerait que chez eux. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé le Jukebox du Deltaman. Malheureusement, cette station de web radio a arrêté pour diverses raisons en fin d'année dernière. Et là, ça fait 2-3 numéros de mon émission que je publie uniquement sur les plateformes. Alors ça va aussi bien de Mixcloud à Soundcloud, en passant par Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Enfin, ou Amazon, etc. Enfin, sur tout l'ensemble des plateformes qui hébergent des podcasts. Bon, voilà, ça me fait un auditoire assez particulier.
Alors justement, parce que, c'est la question que j'allais te poser, Xavier. Tu es beaucoup écouté. Si oui, sur quelle plateforme en particulier? Par exemple, Mixcloud, ça fonctionne bien ou pas?
Alors, typiquement, un jour, je t'avais fait d'ailleurs un message en me disant, tiens, je vois que tes émissions à toi sur Mixcloud sont très suivies, alors que moi, sur Mixcloud, elles n'étaient quasiment pas. Voilà, donc je pense qu'il y avait peut-être un défaut de mise en vitrine de l'émission sur cette plateforme-là. D'un autre côté, il y a certaines plateformes comme Spotify ou Earthys, qui est peut-être la plateforme sur laquelle on a le plus de résultats. Je suis surpris par le nombre d'écoutes hebdomadaires sur ces plateformes-là, quoi.
Avec des retours d'auditeurs, des gens qui te parlent directement, qui te font des réflexions dans un sens ou dans un autre.
Ouais, tout à fait. Ouais, des gens qui me disent, bah tiens, on est surpris parce que ce type de podcast, en fait, ou d'émission, peu importe comment le nom qu'on lui donne, on a beaucoup d'émissions qui traînent sur la toile d'histoire de la musique. Ouais. On va pas se cacher. Eric Jean-Jean d'RTL fait des trucs magnifiques, mais qui sont juste des séquences sur une chanson qui va durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes. C'est vraiment de la séquence one shot. Mais des programmes qui durent avec une certaine chronologie, c'est-à-dire qu'on part d'un événement. Là, tu vois, par exemple, pour Bonnie Raitt, j'ai profité du fait qu'elle venait de gagner l'award, quand même, le Grammy Award de la chanson de l'année aux États-Unis, ce qui est pas rien, quand même, face à des Beyoncé, Taylor Swift ou Adele, et de dire, waouh, putain, cette nana-là, on s'aperçoit quand même, quand on regarde les infos, que personne ne sait qui c'est, quoi. Mais personne.
C'est ça qui est incroyable. Si je reviens juste sur ce petit détail-là, moi, j'avais réagi également sur les réseaux, parce qu'il faut savoir qu'elle a eu cette année 3 Grammy Awards, dont celui de la meilleure chanson. Elle en avait eu 10 précédemment, et ça fait un peu plus de 50 ans qu'elle enregistre, cette nana.
Exactement. Et d'autant que cette nana-là a tourné toute sa vie. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais on le découvrira pour les gens qui auront envie d'écouter mon émission. Mais elle a tourné toute sa vie avec des mecs comme Jackson Brown, tout ça, qui sont des super vedettes aux États-Unis, quoi. Ouais. Avec des John Lee Hooker, avec Dick Waterman, le producteur. Enfin, on se dit, mais comment cette nana, elle a pu passer en dessous des radars, alors que finalement, elle passe en dessous des radars de la génération actuelle des animateurs de télé aux États-Unis.
C'est ce que j'allais te dire, effectivement.
Voilà. Exactement.
C'est une question de génération, et on a maintenant des auditeurs, on a des jeunes, on a des gens qui font partie de la population maintenant, qui n'ont pas connu le 20e siècle. Et figure-toi, Xavier, il y en aura de plus en plus, il va falloir s'y faire. Donc c'est à nous aussi peut-être d'être un peu pédagogue par rapport aux choses qui se passaient avant, et puis continuer à les habituer au blues de maintenant.
Mmh. Mais alors, ce qui est marrant, pour répondre à ta question, aujourd'hui, moi j'ai des retours de gens, des jeunes, qui écoutent mon émission, notamment sur Spotify, et qui me disent clairement, waouh, mais on découvre des trucs, quoi.
Oui,
on a
beaucoup.
Alors, moi, j'ai une nana là qui m'écoute, elle a 25-26 ans. Elle s'est enregistrée le jour où j'ai fait l'émission sur Patty Boy, de la compagne de George Harrison et d'Eric Clapton, avec cette fabuleuse histoire à trois qui a duré pendant 30 ans. Et effectivement, cette nana a découvert Layla.
Do when you get all day, nobody's waiting by your side.
Dalida, de Eric Clapton, enfin de Derek and the Dominos, grâce à cette émission-là. Ah, et elle m'a dit, mais aujourd'hui, j'écoute Clapton en boucle, quoi. Et j'ai découvert George Harrison et des trucs des Beatles que je ne connaissais pas grâce à cette émission. Alors, tu vois, même si c'est une nana de 25 ans sur les millions de gonzesses qui existent en Europe, ou de mecs de 25 ans qui écoutent cette émission, qui me fait ce commentaire, mais pour moi, c'est la meilleure des récompenses, tu vois. C'est le meilleur des salaires pour un animateur bénévole, quoi. C'est d'avoir ce genre de truc et qui te dit, waouh, grâce à toi, j'ai découvert Leila de Clapton et je suis fan, quoi.
Voilà. Effectivement, ça,
je trouve mortel.
C'est une belle victoire et ça sera au quotidien tant que durera, bien sûr, ce podcast. Le jukebox du Deltaman. Est-ce que tu as déjà consacré un jukebox à Status Quo ou sinon, le feras-tu?
Alors, ça, c'est la question que... Alors, je sais pourquoi tu m'amènes là, parce que on va parler de mon album fétiche.
Exactement.
C'est ça. Et effectivement, au même titre que j'ai pu faire une émission spéciale sur les 50 ans de Machine Head des Deep Purple, ouais, effectivement, depuis quelques mois, là, je me dis, bon, alors moi, je suis un grand fan de Status Quo, hein, donc, voilà, qu'on dise pas du mal de Status Quo, parce que sinon, ça va mal se passer, quoi, tu vois.
Bon, tu te souviens quand même qu'on a dû le voir ensemble sur...
Oui, voilà, je me souviens même que toi, tu t'es enfui, quoi.
Ah, ben, exactement. Non, au bout de trois morceaux, j'ai trouvé que c'était trois fois le même truc. Maintenant, 20 ans après, peut-être que je penserai autre chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Il y a des gens aujourd'hui qui écoutent du blues et qui disent au bout de trois morceaux, c'est la même chose.
On
tu vois, parce que les accords sont similaires. Donc,
alors,
le
Xavier,
boogie,
pourquoi,
le blues, etc.
Pourquoi alors, ce disque en particulier? Pourquoi ce groupe en particulier? Sachant que cet album est sorti quand tu étais en CE2, quoi.
Pas loin, ouais, voilà, c'est ça. Pas loin. Alors, l'album, de mémoire, il a dû sortir en 71 ou 72, quelque
72,
chose comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
En 72. Alors, bon, pour, j'avais 8 ans, moi, hein, en 72. Donc, j'avais 8 ans, mais c'est pas cette année-là que j'ai découvert Pile Driver de Status Quo, puisque ouais, c'est de cet album dont il s'agit. Mais c'est un peu plus tard, c'est à l'âge de 12-13 ans, tu vois.
D'accord.
À l'époque, on n'avait pas Internet. Hein. Enfin, comme les gens pourront le comprendre, je suis pas la peine de 3 semaines, donc ça fait quand même quelques années que je trimballe ma carcasse sur cette planète. Et effectivement, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, et puis à 8-10 ans, tu traînais pas ton cul dans les magasins de disques, tu vois. Donc, et un jour, en sortant de, alors je sais plus si c'était du collège ou de je sais pas où, hein, je pense que c'était au collège, je suis sorti et mon frère aîné, qui a un an de plus que moi, m'a dit, ah ben tiens, je vais faire un tour chez le disquaire. Voilà, à l'époque, on disait le disquaire. Donc, du coup, je l'ai accompagné, on est rentré dans ce magasin de disques, et moi, ça a été une passion. C'est la première fois que j'ai foutu les pieds dans un magasin de disques. Je voyais les disques, la platine, cette odeur particulière, tu sais, qu'on les haut-parleurs, les baffles, là, les enceintes que tu as dans les magasins, etc. Tu vois, ça me remonte plein d'images. Et je suis rentré là, et effectivement, ce disque-là tourné, Pile Driver de Status Quo. Et là, j'ai dit, waouh, tu vois. Ça m'a flashé de suite et j'ai dit, mais je peux écouter ça. Et donc le mec, il m'a mis ça sur une platine avec un casque. Et là, j'ai écouté, j'ai dit, waouh, putain, wow, c'est génial cette musique. Moi, tu vois, à cet âge-là, j'étais comme tous les gamins de mon âge. Tout ce que j'entendais, c'était les trucs qui passaient à la radio. J'étais déjà quand même plutôt attiré par les sons des variétés qui parlaient des États-Unis, de l'Amérique, des trucs, des machins, tu vois. Il y avait un truc qui m'attirait dans la variété, mais dès que ça parlait des États-Unis, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, un mec comme c'est Jérôme à l'époque, pour les plus anciens, qui disait, qui chantait les États-Unis, ou n'importe qui d'autre, un Jodassin ou n'importe Jodassin, quoi, tu vois, oui, dans la variété. Exactement. Voilà, des trucs qui m'attiraient auditivement. Voilà.
Je suis en train d'imaginer, Xab, si le jour où tu es rentré chez le disquaire, il y avait eu un morceau de Michel Thor qui passait, il se serait passé quoi? On se serait même pas connu, peut-être.
non, mais parce que ça m'attire. Ça m'attirait pas au point de... Enfin, je pense pas, parce que ces artistes variétoches, comme ça, on les entend à la radio, et c'est pas pour ça que je mettais la radio sous mon oreiller, tu vois. Mais à l'époque, à la radio, on n'entendait pas les Status Quo, on n'entendait pas tous ces trucs-là, tu vois. Il faut quand même que les gens s'imaginent, les gens qui t'écoutent, les plus jeunes, que dans ces années-là, Mitterrand n'était pas encore arrivé au pouvoir et qu'il n'y avait pas de radio FM.
Il n'y avait pas de radio FM, mais par contre, il y avait déjà Francis Zégut, il y avait déjà Patrice Blanc-Francard, il y avait déjà Bernard Lenoir, enfin, des gens qui, sur Europa, RTL ou France Inter diffusaient ces disques-là. Maintenant, c'était relativement confidentiel, on est d'accord.
Et voilà, c'est ça. C'était quand même des taux d'écoute confidentiels à des heures où, effectivement, tes parents, ils te foutaient au lit à coups de pied au cul. Donc, honnêtement, il n'y avait pas à cette époque-là la possibilité. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on clique sur des musiques qui n'ont pas d'avenir, quoi. On est bien d'accord.
Ah, ben écoute ça, moi, je te laisse la paternité de ton
avis. Mais non, mais c'est vrai, aujourd'hui, on est capable, tu vois, on est capable de dire. dire, tiens, il y a des morceaux qui datent des années 70, qui sont n'importe quel gamin que tu croises dans la rue, il connaît Smoke on the Water, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais alors par contre, à l'inverse, Xavier, pour peut-être me faire l'avocat des jeunes qui consomment la musique comme on ouvre un robinet, est-ce que c'est important pour lui de savoir que cette morceau-là va continuer à être écouté dans 10 ou 20 ans? Peut-être pas.
Oui, mais voilà, peut-être pas, mais nous, on se disait la même chose à cette époque-là.
On se disait rien du tout, on se disait on profite, quoi, non?
On profite, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, au début où j'ai entendu Led Zeppelin Rock d'ACDC... J'ai entendu The Hoochie Coochie Men de Muddy Waters, ou j'ai entendu Boogie Chillen de John Lee Hooker, ou même Big Fat Mama de Status Quo, à aucun moment je me suis dit, waouh, mais est-ce que quand je serai adulte, j'écouterai toujours ça?
Évidemment.
À aucun moment. Mais par contre, le jour où je l'ai pris en pleine face, je me suis dit, waouh, quel bol d'air frais, quoi.
Effectivement, voilà, quoi. Et là, je crois qu'on a été biberonné un petit peu aux mêmes choses. Alors, tu évoques un certain nombre d'artistes. Moi, je me souviens aussi de la sortie du film Led Zeppelin Rock, c'est en 1978 par AC/DC. Il y a eu également, bien sûr, cette mise à l'étrier avec une palanquée l'artiste, le film Woodstock, que tu as forcément vu étant ado.
Et, oui, oui, alors justement, le film Woodstock, j'en ai fait un épisode complet de mon jukebox, hein, d'ailleurs,
voilà, voilà.
De 2 heures sur Woodstock et tout ce qui a pu se passer. Au-delà du mythe Woodstock, c'est justement par ce podcast de démystifier justement Woodstock en disant, mais attendez les gars, Woodstock c'est le plus gros rassemblement sur la planète d'humains en un même lieu en un temps assez court, mais finalement, il faut savoir quand même que ça a été un gros bordel, quoi, Woodstock.
Ah,
c'est, on est quand même loin de l'image idyllique qu'on se représente de Woodstock, quoi. Ça a été donc voilà. Et aujourd'hui, effectivement, quand on se rappelle ces années-là, quand tu parles du film Les Zébirocs, que j'ai été voir 3 fois au cinéma, je tapais du pognon dans le portefeuille de mon père, quoi, parce qu'il m'avait dit une fois, vas-y, mais et après je disais papa, il me disait bon, c'est bon, on a déjà payé pour aller le voir. Bon, j'ai dit ok, tu veux pas, mais c'est pas grave, attends, il est où le larfeuille, je te pique 10 balles et j'y vais, quoi. Et voilà. Et bon, aujourd'hui, je m'en excuse, mes parents sont au ciel et je leur présente toutes mes excuses pour ça, mais n'empêche que Les Zébirocs d'ACDC ou le film Woodstock, mais il y en a eu d'autres, il y a eu Tommy, des Who, il y a eu tout ça, quoi. Enfin, on était dans une espèce de vague de musique qui était révolutionnaire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi.
Xavier, j'ai une question pour toi. On l'a compris, tu es né en 1964. Est-ce que tu n'aurais pas préféré naître en 1945 comme Eric Clapton, par exemple?
Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question.
Non, parce que là, ça voudrait dire que tu serais arrivé juste après la Seconde Guerre mondiale, donc pas de dommages collatéraux, et puis en même temps, tu aurais pu découvrir à l'âge de 12 ans des gens comme Elvis Presley, puis les Beatles, etc. Enfin, tu vois,
tout le chemin. Ouais, mais ce qui est assez drôle, c'est que ces gens-là, Presley, les Beatles, ça avait plein d'autres, hein, je les ai découverts grâce à Status Quo, quoi.
Ouais. Alors, Status Quo, ce groupe-là, particulièrement, on peut en parler en quelques minutes, Xavier, pourquoi ce groupe t'a-t-il fasciné à ce point-là, et pourquoi encore en 2023 tu continues à les écouter?
Alors, il y a plusieurs choses. L'électrochoc que j'ai eu avec Status Quo, en fait, c'est lorsque j'ai entendu pour la première fois ce disque Pile Driver, qui pour moi était enfin la consécration de tout ce que j'écoutais et qui me plaisait dans la variété, en disant putain, mais j'aime le son américain, j'aime le rock là qui se dégage des trucs de Samson ou de n'importe qui. Et là, en fait, je découvrais du boogie, du rock, du blues dans ce même album. Il y avait tout. Et pour moi, Pile Driver de Status Quo a été un révélateur. Et effectivement, le groupe m'a amené après vers d'autres connaissances de groupes ou d'artistes, mais il faut reconnaître que c'est l'album Pile Driver de Status Quo qui m'a flashé. C'est pas forcément Status Quo en eux-mêmes, si tu veux, tu comprends ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Mais dès que j'ai pris mes économies, j'ai été acheter cet album. Et je l'ai toujours aujourd'hui, c'est mon album fétiche, je l'ai encadré dans un cadre et tout. Enfin, c'est un peu comme le premier sou de Picsou, tu vois, c'est le truc fétiche que tu gardes sous vitrine, quoi. Et mon Pile Driver, je l'ai encadré, il est chez moi comme une relique, quoi, tu vois, c'est mon icône à moi, quoi. Et pourquoi? Parce que derrière, ben ça, après eux, ben j'ai acheté le double live de Status Quo à Glasgow, là où il y avait Caroline qui durait avec Bye Bye Johnny, etc. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est cette musique là que j'aime, quoi. C'est vraiment ça, quoi, que j'aime. Et Pile Driver, pourquoi? Parce que dedans, il y avait tout. Il y a du blues, il y a du rock, il y a du boogie, il y a, enfin, toute la musique que je savais aimer, mais que je ne savais pas quantifier à ce moment-là, elle était matérialisée d'un seul coup dans ce disque.
Et là, pour juste illustrer un petit peu l'importance de cet album, Pile Driver, quand il est sorti, il est allé plusieurs semaines de suite dans les charts, et puis dans les charts britanniques, notamment, il a atteint la 5e place. Et jusqu'en 1977, 5 ans après sa sortie, il a été certifié disque d'or en France. Donc ça, pour un disque de rock et de boogie, effectivement, à l'époque, peut-être en 77, c'était relativement courant, mais disque d'or, fallait quand même en vendre des albums.
Et c'est ça, exactement. C'est-à-dire que je pense que cet album-là, alors bon, après, moi, je suis pas musicologue, hein, je vais pas étaler une science que je ne connais pas, mais je pense que cet album a été révélateur de plein de choses. Parce que, d'une part, c'est un des premiers, je pense, qui est arrivé sur le territoire national en France de status quo, d'accord? Puisqu'ils avaient déjà sorti des albums avant, hein. Ils avaient sorti déjà 3 ou 4, je crois.
Le précédent, Dog of Two Heads, qui avait été bien couronné de succès aussi, mais bon, celui-ci,
oui. Mais Dog of Two Heads, en fait, moi, je l'ai découvert bien après Pile Driver.
D'accord.
Tu vois? Et malgré le fait qu'il soit sorti l'année ou 2 ans avant, quoi. Donc, effectivement, je pense que ce détonateur qui a été Pile Driver, d'ailleurs, les gens qui l'écoutent aujourd'hui, c'est simple, hein. Moi, j'ai découvert le blues ou le blues rock, on va dire, grâce à la reprise des Doors, Roadhouse Blues. Très honnêtement, moi, j'ai mis 10 ans, mais je te jure, hein, j'ai mis 10 ans à comprendre que cette chanson, elle était pas d'eux, quoi.
Ah ouais. D'accord. Voilà. Mais comme quoi, de toute façon, voilà, ça fait partie un petit peu du parcours initiatique de tous ceux qui sont interviewés dans cette rubrique My Rock Yours. C'est que, en fait, bah, grâce à tel ou tel artiste, bien, il est possible ensuite de tirer le fil un petit peu comme Ariane et de se dire, bah, tiens, finalement, tu as parlé de Muddy Waters tout à l'heure, c'est un très très bon exemple. On pourrait évoquer John Lee Hooker, on pourrait évoquer tous les pères du boogie, hein, finalement, qui ont permis la naissance de groupes comme Status Quo. Alors, pourquoi ce titre-là en particulier, Big Fat Mama, est-ce que c'était le single? Je crois pas. Hein.
Je sais pas trop. Il me semble qu'il est sorti en single, mais j'en ai pas la certitude.
Mes sources me disent que Paper Plane était sorti avant.
Alors voilà, c'est ça. C'est Paper Plane qui est sorti en premier en single. Exact. Oui, voilà, ouais. Et Paper Plane est arrivé en single, mais principalement en Grande-Bretagne.
D'accord.
On est d'accord. Ouais. En France, les singles de Status Quo, je suis désolé, mais j'ai pas souvenir quand j'étais écouté Pile Driver qu'on m'ait dit, bah, tiens, t'as le single Paper Plane qui est là, quoi.
Tu ne possèdes pas dans ta discothèque bien fournie pourtant de 45 tours de Status Quo de cette époque, alors?
Non, je le confesse.
Voilà. Alors, ce titre-là, Big Fat Mama, qu'on va écouter ensemble, pourquoi t'as-t-il particulièrement marqué? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce morceau?
Alors, je sais pas, il y a cette introduction-là, ça m'a accroché de suite. Et quand on écoute le morceau, en fait, qui est assez long, hein, je crois qu'il fait dans les 5-6 minutes, donc déjà, c'est le titre qui est anti-radiophonique, quoi, tu vois, 5 minutes, 5-6 minutes.
Ah oui, il est 5-53, on est presque à 6.
Voilà. Et effectivement, quand j'écoute ce morceau, et encore aujourd'hui, parce que je l'écoute depuis cette époque-là, je l'écoute très régulièrement, et pas que, hein, j'écoute beaucoup d'autres trucs, mais Big Fat Mama, je l'écoute souvent, c'est vrai. Et je ne m'en lasse pas. Pourquoi? Parce que on a plusieurs thèmes musicaux dans la même chanson.
Ouais.
Tu l'as écouté, tu l'as entendu. Ouais. Et effectivement, alors on démarre avec un espèce de boogie rock là. Il y a des mélodies un peu orientales dans le truc. Il y a ce qui va faire derrière que les Status Quo vont lancer leur fameux oh, 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 oh. Tu vois, enfin, tout est là, quoi. En fait, il me semble que dans la structure du morceau, en fait, tout ce qu'a fait le succès d'une part de Status Quo, mais aussi moi, des musiques que j'aime, elles viennent de là, quoi. Comme je dirais, enfin, je veux pas paraphraser quelqu'un qui l'a déjà dit avant moi, mais ça y est, c'est fait. Mais effectivement, ça vient de là, quoi. Et derrière, quand j'ai écouté ensuite l'album dans son intégralité, mais comment la claque que j'ai pris, quoi. Il y avait Unspoken Word qui était fantastique avec cette espèce de blues là, lancinant, prenant, un peu sombre, un peu lourd. Enfin voilà, honnêtement, pour moi, c'était vraiment d'une part parce que ça a été mon album de révélation. Ça m'a amené à découvrir les Beatles parce que à un moment donné, j'ai entendu une phrase que j'ai réentendu plus tard dans les petites billes, tu vois. Je me suis dit, ah, mais tiens, ce truc-là, je l'ai entendu déjà, tu vois, quand ils disent, when I find myself in times in trouble, dans les petites billes.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Ben Francis Rossi dit la même chose, mais ce que je savais pas, c'est que les Tilbys étaient sortis avant, tu vois. Donc, c'est pas McCartney qui a plagié Rossi, c'est plutôt l'inverse. Tout ça m'a amené à, comme tu disais tout à l'heure, à dérouler la pelote, à découvrir Elvis, à découvrir les Beatles, à découvrir les Stones. Bon, les Stones, je les ai découverts parce que j'avais un oncle qui était bien rock'n'roll et qu'il était fan des Stones et tout ça, donc il m'a biberonné avec mes premiers jouets, mes premiers Playboy et mes premiers Rolling Stones. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était quand même une époque révolutionnaire musicalement, et moi, Pile Driver, ça reste l'album fétiche. Quoi.
Et ouais, voilà, c'est un groupe qui fait partie, effectivement, non pas de ceux qui ont vendu le plus d'albums en tout, parce que on va mettre devant eux peut-être Led Zeppelin ou Deep Purple, tu es bien d'accord?
Non, mais tout à fait. Ouais, même à CDC, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de groupes qui leur sont passés devant, quoi. Mais peu importe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la course et l'échalote de dire que c'est moi qui ai vendu le plus. Enfin, c'est pas celui qui a pissé le plus loin, quoi. Mais c'est surtout de dire, ils ont apporté un truc qui n'existait pas. Le boogie rock de Status Quo, même si ça, toi, ça t'a emmerdé à Cognac,
et mais franchement, au bout de trois morceaux, mais après, voilà, ça reste personnel. Ouais. Et puis, sûrement que 20 ans après, j'aurais changé d'avis parce que je continue et je me suis remis à écouter ces trucs-là qui m'étaient passés par l'oreille aussi à l'époque. Mais voilà, c'est pas le groupe qui m'avait forcément flashé. Moi, c'était plus
Mais
bon, voilà. Je voulais juste savoir, petite question par rapport à ce concert de Cognac, t'avais pu interviewer les garçons?
Alors, justement, j'allais t'en parler. En fait, sur Status Quo, en fait, bon, j'ai une anecdote qui est escalée.
Allons-y.
Mais effectivement, lorsque Status Quo s'est produit à Cognac, alors après je les ai revus hein, au festival Post Guitar, ailleurs, etc. Mais à Cognac, c'était la première fois que je voyais Status Quo IRL, quoi, tu vois, in real life, quoi. Je les avais devant. Et j'avais vu avec l'organisation du festival pour pouvoir interviewer Francis Rossi, quoi. Mmh. Tu vois, Francis Rossi, c'était le mec que j'avais vu avec la crinière baissée sur l'affiche de Pile Driver, tu vois, en train de secouer la tête. Donc avoir Francis Rossi en face de moi, c'était forcément avoir le souvenir de ce mec avec le double live à Glasgow, avec Pile Driver qui avait été mon disque fétiche. Découverte de toutes ces musiques, l'avoir en face, c'est comme si, c'est comme si un chrétien parlait au pape ou à Dieu, quoi, tu vois, enfin, et moi, j'avais ce mec-là devant, et du coup, j'ai foiré complètement mon interview, quoi, tu vois, parce que je savais plus quoi lui dire. Même si j'avais tout préparé mes questions, j'étais dans l'incapacité. Mais à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, faut que vous m'excusiez parce que, et je lui ai raconté cette anecdote. Pile Driver, le premier disque de ma collection que je l'avais encadré et qu'après j'avais découvert le double live, etc. Et que l'avoir en face de moi à ce moment-là, ben, c'était juste un truc inimaginable dans ma tête, ouais, tu vois ce que je veux dire?
Je comprends très bien.
Voilà, et du coup, j'ai foiré mon interview, elle n'est jamais passée nulle part, je l'ai encore dans mes fichiers audio, là, quelque part, dans mes disques durs, et je l'ai jamais réécoutée, hein, parce que je savais qu'elle était foirée. Mais ce qui est marrant, c'est que Francis Rossi s'est mis à rire quand je lui ai dit, quand je lui ai raconté cette anecdote, mm-hmm. Il s'est mis à rire, et il m'a dit, non mais, c'est incroyable la passion que t'as de me parler comme ça, parce que c'est pas grave quand on interview, parce que je m'étais excusé en lui disant, mais écoutez, je suis désolé, j'ai complètement foiré mon truc, là, mais parce que j'ai l'impression d'avoir mes 12 ans en face de moi, quoi, et du coup il avait rigolé en me disant non mais t'inquiète pas, quoi, enfin je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive, et au moins t'as la passion derrière toi, et voilà, quoi, donc bon, on en était resté là, mais c'était ma petite anecdote d'avoir pu interviewer Francis Rossi et d'avoir complètement chié mon interview, quoi.
Voilà. Bon, j'espère que c'était la seule fois que ça t'est arrivé. En tout cas, l'émotion qu'on peut avoir parfois, tu sais de quoi je parle, rencontrer certains artistes, des choses qu'on peut partager. J'ai une toute dernière chose à te soumettre, Xavier, puis ensuite, on va écouter le fameux morceau. Je te donne une liste et puis ensuite, tu me dis ce que ça t'évoque. Caroline, The Wanderer, Rain, Beginning of the End, Don't Waste My Time, Don't Drive My Car, Hold You Back, The Oriental, Creeping Up On You, Paper Plane, What You're Proposing, Beat Fat Mama, Living on an Island, In the Army Now, Roll Over, ouais, wow. Lay Down, etc.
Qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ça m'évoque une grosse compilation de Status Quo, déjà, dans lequel je pourrais enlever facilement deux morceaux, deux ou trois de ce que tu as dit. Les morceaux, forcément, In the Army Now, pour moi, c'est pas Status Quo, c'est juste la bande des femmes où on a besoin de pognon, quoi, tu vois. Whatever You Want, c'est différent. Là, j'étais plus âgé. Quand j'ai découvert Whatever You Want, c'était à l'époque où on allait dans les bals, où il y avait les groupes qui reprenaient tout ça. Donc ça aussi, ça m'évoque d'autres souvenirs. Mais ce que tu viens d'évoquer, effectivement, ouais, c'est la playlist de Status Quo, quoi. Tu mets ça dans le spot, voilà. Et puis tu t'écoutes ça pendant deux heures, quoi. Voilà, quoi.
Exactement. Et la réponse exacte, c'est en fait la setlist exacte du 23 juillet 2008 à Cognac, et c'était leur concert. C'est exactement ces morceaux-là qu'ils ont joué dans l'ordre.
Exact. Ouais, ben voilà. Ben c'est. Alors, tu vois, par contre, quand on réécoute leur fameux live, leur double live à Glasgow, là, où on a un Roadhouse Blues où on retrouve un solo de batterie avec les cloches et tout. Enfin, ça, on l'a pas revu après, quoi. Tu vois, c'était vraiment une époque où il y avait les Status Quo original, tu vois, Coughlin, Lancaster, Rossi, Parfit. Voilà, c'était quatre mecs, quoi. Et puis, on en voit du jus, quoi. Tu vois. Après, Status Quo, ça s'est un peu ouvert à d'autres trucs. Hein. Il y a eu des synthés, il y a eu du piano, il y a eu des trucs qui n'étaient pas forcément dans l'originalité, dans le départ de Status Quo, quoi.
On va dire, il y a eu les années 80, voilà, tout simplement.
Voilà, il y a eu les années années 80 qui sont passés par là. Et c'est vrai que quand aujourd'hui tu mets Indie Armina, tout le monde connaît cette chanson, mais, tout le monde la connaît, t'as 70% qui sont incapables de dire qui chante, quoi. Voilà. Parce que c'est un truc qui est sorti dans les années 80, et qu'on te ressort dans n'importe quelle soirée où il y a un DJ qui anime une soirée années 80, à un moment donné, il va te placer Indie Armina au même titre qu'il mettrait Samantha Fox ou Sabrina, quoi. Tu vois, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, exactement. Voilà. Bon. Ouais. Voilà, de toute façon, il suffit de faire une recherche Google, tu tapes status quo, il va arriver juste après Indie Armina et Whatever You Want. Voilà, ce sont
les deux titres. Exactement. Et mais Big Fat Mama n'arrivera pas de suite.
On va écouter Big Fat Mama grâce à toi, Xavier. Merci pour tout. Et puis, bon vent, bien sûr, à ton émission, à ton podcast.
On va dire au revoir. Mais... Et je voudrais juste quand même dire à quel point je suis très honoré de te connaître, toi, Marco, parce que ça fait quand même 40 balais que tu fais ton émission tous les week-ends, tous les samedis, que c'est sûrement l'émission de radio en France qui a la plus longue longévité, tu m'excuseras de ce pléonasme.
Oui, mais alors, mais, c'est pas celui qui va pisser le plus loin, hein, Xavier.
Non. Mais par contre, je suis épaté de la stabilité, de la régularité de tes trucs, avec la qualité du programme qu'il y a dedans. Enfin voilà, je te sers pas la soupe ou je te beurre pas la confiture, hein. je te dis juste, voilà, moi je suis très honoré de t'avoir comme pote et de dire, oh, putain, le mec, il a la plus longue émission de radio en France, quoi. Ça fait plus de 40 ans qu'il anime ça. Voilà, donc je pense que ça vaut respect, quoi.
Eh ben, merci Xavier pour... voilà, je sais pas quoi te dire.
Et bon anniversaire, et bon anniversaire.
Merci beaucoup. À bientôt, Xavier.
À bientôt. Salut Marco.
Status Quo, Big Fat Mama, on était en 1972. Merci à Xav Baker, Xavier Boulanger pour ce My Rockers numéro 25. Vous pouvez retrouver tous les épisodes et ceux à venir sur tout simplement la page consacrée à My Rockers sur le site de l'émission blues.radio666.com. Le temps de 3 minutes 46, juste un morceau. On va se retrouver, non pas en 2023, mais en 2022 avec un album qui vient seulement d'arriver dans les bacs de Sweet Home Chicago. C'est celui de la chanteuse Nalali Roth Rock avec une production de monsieur Kevin McHenry qui joue également du clavier là-dessus. Ça nous vient du Tennessee. Nalali Roth Rock qui a été également dans cet album The Rock House Sessions Extended Cut à l'affiche du dernier Moonshine Blues que vous avez pu entendre il y a très peu de temps. On y va avec ce titre Goodbye.
A song, think of you, it happens every day. How I wish I could call you and say that I miss you so much it hurts. No way to put it into words. Your laugh was the sweetest thing I've ever heard. I just can't seem to say goodbye. Emotions that I can't unwind. Oh, it's not easy, but I still try to find some peace of mind. Catch my breath, wipe the tears rolling down my face. Flash a smile, I know it's gonna be okay. I'll take one step at a time. I won't let life pass me by. Each day it's better, but sometimes still I find just can't seem to say goodbye.
Nalali Roth Rock, on écoutera d'autres belles voix féminines comme celle-ci en deuxième heure avec tout à l'heure Miley's Bay de Miss B and the Bullfrogs en fin de programme et puis toute la deuxième heure qui sera consacrée à la Bedoune avec Cécile Perfetti. The Rock House Sessions Extended Cut, Nalali Roth Rock dans Sweet Home Chicago, Chicago sur le 666. On continue avec une vieillerie, on est 50 Years After, 1973. On explore tous les albums blues et rock de notre jeunesse, et oui, 1973, je ne sais pas si vous avez connu ça, en tout cas, ça s'appelle Houses of the Holy. Le nom du groupe, c'est bien sûr Led Zeppelin, et voici The Rain Song. Thank you.
season, I am glowing. You are the sunlight in my growing. So little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low.
Song Led Zeppelin, on est en 1973 dans l'album Houses of the Holy, c'est dans la rubrique 50 Years After de Sweet Home Chicago. On termine cette première heure avec un certain Harry Bibb, disque du mois, avec le chanteur Harrison Kennedy, Call Me By My Name, extrait de l'album Riding.
Went panthers roam the delta. I drained your swampy land. I built your railroads with a hammer in my hand. I picked your cotton, cut your sugar cane. I'm a man, not your boy. You will call me by my name. I fought with the Rough Riders on that hill down in Cuba. Dug that canal in Panama, nearly died of yellow fever. In 1917, Uncle Sam called, I came. I'm a man, not your boy. You will call me by my name. I joined your segregated army to make the world free. But back home in Alabama, they tried to tar and feather me. Some say it's changing,
well,
but the things remain the same. I'm a man, that's your boy. Call me by my name. Not your Negro. Fact is, I might be your kin.
My labor made this country, and I'm an equal citizen.
Lord knows I'm still here to stake my claim.
I'm a man, not your boy.
You will
call me by my name. I'm a man, not your boy.
Eric Bibb avec le chanteur Harrison Kennedy pour Call Me By My Name. C'est ainsi que se termine la première heure de ce Sweet Home Chicago.